Bonjour Monseigneur Guéquiérémel.
Bonjour Isabelle.
Vous nous accueillez à l'archevêché du diocèse de Toulouse pour démarrer cette nouvelle année radiophonique. Merci pour votre accueil. Je vous propose de revenir sur ce grand rassemblement de Pentecôte. Le 8 juin dernier, 1045 adultes et jeunes ont reçu le sacrement de confirmation. Ils étaient entourés par leurs familles, leurs amis et aussi de nombreux catholiques du diocèse de Toulouse étaient présents. En tout, ce sont plus de 15 000 personnes qui ont participé et qui ont pu se laisser transformer par l'Esprit-Saint. 2 mois après ce rassemblement, Monseigneur, quel souvenir en gardez-vous?
Un excellent souvenir et surtout les échos encore la semaine dernière. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais quand j'y pense, j'en ai encore la chair de poule. Et donc tout l'été, et après ce rassemblement dans la rue, chez le kiné, très, très, très souvent, beaucoup de retours très positifs. Et de fait, tous ceux qui ont vécu cette journée, moi j'étais très, très marqué, presque bluffé par le déroulement de cette journée, la joie qui régnait, la profondeur aussi, parce que voilà, c'était pas simplement la joie d'être ensemble, c'était beaucoup plus profond et on sentait que l'Esprit-Saint était au rendez-vous. Ça, c'est, pour moi, c'est très clair. Et donc ça a été un moment très fort. Et puis nous avons découvert ensemble finalement le visage de notre Église diocésaine, donc qui n'a pas à rougir d'elle-même, voilà, même avec nos pauvretés bien sûr. Et donc ça a été un moment extrêmement important, donc aussi d'une vision unifiée de l'Église dans la diversité. Il y avait quantité de stands, de différentes réalités de notre diocèse. Il y avait ceux qui donc étaient dehors à visiter les stands, à écouter les différentes chorales, etc., à danser aussi. Et puis ceux qui à l'intérieur vivaient un parcours spirituel.
Diffusion de l'Esprit-Saint.
Voilà, et vraiment un moment très, très beau et très fort aussi. Les prêtres, il y avait beaucoup de confessions et apparemment aussi des personnes, voilà, une qui témoignait qu'elle s'est confessée pour la première fois de sa vie, etc. Donc beaucoup de belles choses et des choses intérieures. Et après la Pentecôte, j'ai demandé à des confirmés comment vous avez vécu cet événement. Est-ce que vous aviez l'impression d'être perdu dans une foule anonyme? Non, vraiment pas.
Ils se sont sentis accueillis.
Ceux que j'ai entendus, ils se sont sentis accueillis, rejoints personnellement.
Ah oui.
Et donc, ils ont vécu aussi des choses très fortes à travers cette confirmation.
Ouais, ils ont senti une certaine unité, en fait.
Oui, c'est ça.
Et comme faisant partie d'une famille, d'une même famille. Diversité et unité sont les deux mots que nous retenons pour cette Pentecôte 2025. Comment poursuivre cet objectif d'unité malgré, on le sait bien, toutes les différences inhérentes à chacun?
Oui, et puis dans une culture où chacun voit à partir de soi-même, bien sûr. Et donc il faut continuer à travailler cela. Alors l'unité, bon, elle nous vient du Christ, elle nous vient de Dieu. Et nous avons à travailler et notre propre unité intérieure, je dirais, et l'unité dans nos communautés chrétiennes, dans les paroisses, en acceptant la diversité, en acceptant des sensibilités différentes. Mais en se retrouvant justement autour de l'Eucharistie, il y a une seule Eucharistie et un seul Christ, un seul corps du Christ que nous partageons pour communier. Et donc c'est à partir de là aussi. Mais cette unité est importante aussi et je pense donc pour la mission, bien sûr, pour témoigner. Cette unité, elle peut se renforcer aussi avec la création de fraternités missionnaires, particulièrement dans les lieux où les prêtres sont un peu loin ou
donc
débordés.
Donc c'est ce que vous encouragez dans les paroisses.
Voilà. Et je pense aux catéchumènes et aux néophytes, cette unité, enfin cette mobilisation aussi pour la mission, ensemble, comment prendre en charge ces catéchumènes qui frappent à la porte, comment prendre en charge les néophytes, comment les intégrer vraiment dans la vie de la paroisse, dans la vie de la communauté. Donc, c'est pour moi un grand défi, si vous voulez.
Oui, c'est ça. Et puis un défi urgent.
Et un défi urgent, absolument. Absolument.
Oui. Il y a aussi tous ces lieux de rassemblement, ces lieux diocésains qui sont des ferments d'unité.
Absolument. Moi, j'ai toujours pensé, depuis que je suis évêque, que le pèlerinage, par exemple, diocésain à Lourdes est vraiment Il se construit l'esprit de famille d'un diocèse à travers ces rassemblements. Et donc, ils sont importants aussi. Alors, on ne peut pas vivre tout le temps des grands rassemblements, même si beaucoup de gens m'ont dit, bon, on recommence l'année prochaine,
Oui.
la Pentecôte. Alors, j'ai dit
Je ne sais
non,
pas si
non,
tous
non.
les bénévoles seraient d'accord, parce qu'ils étaient
Oui,
quand
oui.
même
Non,
très
ils ont fait un
mobilisés.
travail impressionnant.
Oui.
Vraiment, j'ai été vraiment bluffé, moi, par la qualité
Oui. De
de cette journée
l'organisation et puis ouais,
d'organisation.
beaucoup de générosité. Oui.
Donc non, on ne peut pas faire ça tous les ans.
Dans cette recherche de l'unité, il y a aussi peut-être la reconnaissance de la richesse de notre histoire, en fait, histoire
Voilà.
diocésaine.
Voilà. Alors ça, c'est aussi un travail que nous voulons faire. J'en ai parlé aussi avec le conseil presbytéral déjà. Et avec les prêtres. Au fond, quel est le charisme du diocèse de Toulouse?
Ça, c'est une bonne question.
Quel charisme? Qu'est-ce qui fait la spécificité du
Quelle est son
diocèse de Toulouse?
identité?
On voit bien que bon, moi j'ai été près du diocèse d'Aix-en-Provence, j'ai été évêque auxiliaire de Nice, évêque de Grenoble, archevêque de Toulouse, et on voit bien que chaque diocèse a son histoire propre, ses caractéristiques propres, mais comment les définir? Alors je pense que ça part aussi justement de l'histoire sainte du diocèse, des saints qui ont façonné un peu cette
Donc
histoire.
Sainte-Germaine.
Voilà, bien
Voilà, le
sûr. Bon,
cardinal
déjà le saint
Thaliège, même
fondateur,
si
saint
voilà,
Saturnin, bien
Saint-Saturnin, bien
sûr.
sûr, Saint-Sernin.
Et puis tous les saints méconnus, mais qui méritent d'être mieux mis en lumière. Voilà, puis Toulouse aussi, avec la dimension intellectuelle et culturelle de Toulouse, ça inévitablement, ça façonne le diocèse. L'Institut catholique reste quand même aussi une dimension importante de la spécificité du diocèse de Toulouse. Et donc, voilà, ce sont des questions à creuser. Alors, on va essayer, justement, en prochaine réunion du conseil presbytéral, de réfléchir. On va demander au père Jean-François Galinier
Il est
de nous
historien.
présenter.
Il est historien.
Il est historien, alors historien plutôt contemporain, mais enfin, ou moderne au moins. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser ensemble.
Pour
Et
s'approprier finalement cette histoire du
pour
diocèse.
s'approprier cette histoire, pour la faire connaître à ceux qui arrivent,
Ah
aux
oui.
prêtres, aux prêtres fidèles de nous, mais aussi aux prêtres étudiants, et puis aux jeunes prêtres, aux séminaristes.
Et puis à tous ces nouveaux baptisés.
Et puis, bien sûr, à tous ces nouveaux baptisés, nous sommes entrés par le baptême dans une grande famille qui a ses origines très lointaines. Voilà. Oui.
Toujours dans cette recherche constante de l'unité, il est nécessaire peut-être aussi de construire une complémentarité entre les membres, les laïcs, les religieux, les prêtres du diocèse de Toulouse. Comment faut-il procéder, Monseigneur?
Il faut continuer à travailler sur. Justement, c'est toute la communauté ecclésiale qui est envoyée en mission. Et donc, comment travailler les collaborations, comment travailler les ministères aussi, ce sont des choses que nous devons approfondir entre le ministère sacerdotal, le ministère diaconal, mais aussi les ministères institués. Voilà ce que c'est opportun pour notre diocèse. Il y a tous les ministères extraordinaires, ce qu'on appelle ministères extraordinaires, ceux qui donnent la communion, qui vont porter la communion aux malades, etc. Mais donc il nous faut de plus en plus prendre conscience. Alors ça vient dans les paroisses. Vous voyez, Vincent Gallois qui va prendre la charge de la cathédrale
L'ancien curé de Balma.
Non, non, ça y est, maintenant,
Ça
à
y est,
partir du 1er septembre,
la passation est faite.
il est curé officiellement. Je vais l'installer le 7, exactement.
Le 7 septembre, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait précisément pour cette collaboration, le
Ben,
père
en tout cas,
Vincent Gallois?
lui, il arrive à la cathédrale et il voit des équipes formées, il voit des laïcs responsables, il voit. Donc, il est heureux de découvrir ce que son prédécesseur a mis en place sur cette paroisse, qui est une paroisse vraiment vivante, où beaucoup de gens actifs et où il y a un catéchuménat important aussi. Et donc, voilà, et je pense que sur de plus en plus de paroisses, cette collaboration se met en place. Et c'est très important que justement, on arrive à déployer les charismes, au fond.
Est-ce que vous pourriez définir ce que c'est qu'un charisme?
Un charisme, c'est un don de l'Esprit Saint qui est donné justement pour l'édification de la communauté et pour la mission. Et donc, voilà, il n'est pas pour celui qui le reçoit d'une certaine manière. Et plus il est mis au service de la communauté, de la mission, et plus il se déploie. Moins il est mis au service des autres, et plus il va s'atrophier, évidemment. Et donc, voilà, et chacun d'entre nous, si vous voulez, nous portons un don, des dons particuliers. Nous avons même, si vous voulez, dans le clergé, évidemment, le prêtre n'est pas formé dans un moule. Le prêtre, il est prêtre avec ce qu'il porte, avec ce qu'il a reçu à la naissance et les dons de l'Esprit Saint qu'il a reçus dans son parcours de foi. Et donc, tout cela est à mettre plus en valeur, sans doute, voilà, il faut que chacun d'entre nous arrive à déployer ce qu'il porte en lui pour le service des autres.
Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, comme charisme?
Mais il y en a qui auront un charisme d'écoute, par exemple, vous voyez, d'autres un charisme d'entraîneur plutôt, vous voyez, d'animateur, etc. Il y en a qui sont très compétents pour l'enseignement, d'autres, non, c'est pas leur charisme. Voilà. Donc, il y a une multitude de charismes, on peut dire.
Oui. À titre individuel, Monseigneur Guy de Kerimel, comment chacun peut être ferment d'unité?
En acceptant de rencontrer les autres, de chercher à comprendre leurs pensées, qui n'est pas forcément mon point de vue, vous voyez, et pourquoi telle personne parle de cela, bien sûr, en confrontant ses points de vue, en allant ensemble à la source, à l'évangile. Donc c'est cela, et en acceptant que l'autre soit autre.
Ah,
Ça,
c'est pas facile.
c'est le plus
Oui,
difficile. C'est
c'est
le plus
ça.
difficile. Déjà vis-à-vis de Dieu, le tout autre, et entre nous.
Oui.
Que l'autre soit autre, ça, c'est l'altérité, en même temps, nous oblige justement à un dépassement, à une conversion permanente. Et l'unité, elle peut se faire que dans ce chemin de conversion. Hein. Mais ce n'est pas facile, non.
Oui, ce n'est pas facile. C'est vrai que ça me fait penser à cette phrase célèbre de Tertullien, qu'il avait été touché par le témoignage des martyrs. Il est devenu chrétien en recevant le baptême en 193. Et il disait, c'est surtout cette pratique de la charité qui nous imprime une marque spéciale. Voyez, dit-on, comme ils s'aiment les uns les autres. Donc l'unité, elle passe, comme vous le dites, par bon, des temps forts vécus ensemble, la reconnaissance des charismes des uns des autres, et puis la participation à l'Eucharistie, voilà, qui est vraiment le ferment d'unité. Mais il y a aussi peut-être des actes de charité à
La
poser.
charité concrète, ça c'est évident, oui. Nous mettre vraiment au service de l'autre, dans le respect de ce qu'il est, de cette altérité justement. Et c'est comme cela d'ailleurs qu'on apprend à se connaître. Moi je me souviens, quand j'étais étudiant dans la communauté de l'Emmanuel à Paris, j'ai partagé un appartement avec trois autres hommes célibataires, certains étudiants, d'autres au travail. Et bon, il y en avait un avec lequel je n'avais pas beaucoup d'affinité naturelle, on va dire. Mais au fur et à mesure qu'on a vécu ensemble, eh bien, il y a des liens très profonds qui se sont tissés. Vous voyez, on dépasse simplement l'aspect superficiel pour aller plus loin. Et forcément, il y avait des traits de tempérament qui pouvaient un peu me titiller, je ne sais pas comment dire.
Vous agacer peut-être aussi.
Oui, c'est ça,
Oui.
voilà. Mais on apprend à aller plus loin. Et du coup, tout le monde en est grandi, en fait. Et puis, ces liens demeurent. Ce sont des liens qui durent.
Un dernier mot pour conclure sur cette question de l'unité.
Eh bien, donc, c'est un grand défi.
Oui.
Un grand défi qui est. Alors, le pape Léon XIV nous encourage beaucoup dans
Ah
ce
oui.
sens-là. Mais c'est un des grands défis, encore une fois, dans une société un peu éclatée aujourd'hui. Et nous, les chrétiens, nous avons quelque chose à dire justement à cette société, qu'il est possible de se faire confiance, il est possible de construire quelque chose ensemble. Alors, ça demande un chemin qui n'est pas un chemin de facilité, mais c'est possible.
C'est possible. Merci beaucoup, Monseigneur Guy de Kerimel.
Merci à vous.
Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle carte blanche.